La chose commune, changement climatique et agriculture, deuxième partie. On continue notre échange avec Christophe Beaujouan, animateur régional de l'Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique, autrement appelé Oracle. Observatoire qui a édité en mars 2020 un état des lieux complet sur cette question. Cette semaine, on aborde l'obligation pour les agriculteurs de s'adapter au changement qui est déjà présent à travers leurs pratiques et les variétés agricoles qu'ils utilisent. Puis on parlera des capacités d'atténuation du changement climatique par l'agriculture, en luttant à la fois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi en favorisant le stockage du carbone dans le sol. Le rapport comporte aussi un certain nombre de préconisations, en plus des analyses que vous pouvez faire. Elles sont évidemment toutes différentes en fonction des cultures que vous analysez. Pour autant, en termes d'adaptation et d'atténuation, qu'est-ce que Oracle préconise? Déjà, à qui préconisez-vous tout ça? Est-ce que vous êtes entendu, en tout cas bien reçu par le monde agricole quand vous faites ces analyses-là?
Alors, je relativise un petit peu ces préconisations dans le sens où le but vraiment d'Oracle, c'est un observatoire, et le but vraiment, c'est d'apporter des faits objectifs et uniquement de relater ce qui se passe dans la région centre. Maintenant, effectivement, même s'il y a des inconnus dans le côté adaptation, les experts ont déjà identifié des pratiques, on va dire, qui vont dans le bon sens. J'en ai commencé à vous en évoquer, hein, et qui sont, on va dire, compatibles pour l'avenir. Donc c'est tout ce qui va. Donc au niveau de l'adaptation, j'ai commencé à en parler, hein, évolution des dates de semis, réfléchir aux cultures qui ont besoin d'irrigation en été, qui demain vont être de moins en moins compatibles, ça on l'a compris. Réfléchir à les remplacer à des cultures printanières. Donc tout ça, ce sont des préconisations. Il y en a d'autres, hein, qui sont en lien avec l'adaptation au climat, pour faire prendre conscience à l'agriculteur que le réchauffement climatique, on l'a vu tout à l'heure, plus 0,3 degrés tous les 10 ans, cette évolution est pas prête de s'arrêter, au moins pour les 30 à 40 prochaines années. Dû à l'inertie du système Terre. Toutes les actions que l'on fait aujourd'hui, on en verra le résultat dans 40 ans. Et aujourd'hui, on est en train de payer les émissions de gaz à effet de serre, on pourrait le dire sous cette forme-là, d'il y a 30-40 ans. Donc on a une inertie du système Terre qui fait qu'on a une réaction de 30 à 40 ans. Donc il faut continuer à s'adapter puisque cette évolution des températures n'est pas prête de s'arrêter. Et ensuite, ça nous amène sur le côté atténuation du changement climatique pour bien comprendre la différence. Donc, il y a beau y avoir une inertie du système de 30 ans, on peut quand même commencer à agir dès maintenant. Ok, on verra les résultats dans 30 ans, mais ça peut quand même être intéressant. En 2015, lors de la COP21 à Paris, rappelez-vous, tous les pays se sont assis autour de la table et se sont engagés à des actions moins émettrices de gaz à effet de serre ou de stockage carbone. Donc là, vous comprenez bien, hein, le lien entre émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et réchauffement climatique. Donc les experts du GIEC nous ont dit que si on émettait moins de gaz à effet de serre, on pouvait limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, à plus de 2 degrés par rapport aux années 2000, à l'horizon 2100. C'est ce que l'on pourrait appeler le scénario COP21. En France, concrètement, et c'est inscrit dans la loi depuis très peu, ça consiste à s'engager dans la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire ne plus émettre autant de gaz à effet de serre qu'on est capable d'en stocker. Donc c'est extrêmement ambitieux, mais c'est ce qu'on appelle le scénario COP21, qui, si tous les pays du monde s'engagent dans cette voie, limiterait le réchauffement climatique à 2 degrés. Si tel n'est pas le cas, forcément, les experts du GIEC nous ont programmé un réchauffement climatique non pas de 2 degrés, mais de minimum 4 degrés à l'horizon 2100. Et là, on comprend bien que de tous les impacts dont je parle depuis le début de l'émission, notamment stagnation du rendement du blé, c'était seulement plus 1 degré en 50 ans. On imagine bien les conséquences sur nos cultures si on arrive dans un scénario, on va dire, sans maîtrise des gaz à effet de serre, à plus 4 degrés à l'horizon 2100. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, donc on peut s'attendre à des impacts beaucoup plus impactants. D'où la nécessité d'amener l'agriculteur petit à petit sur cet aspect atténuation et demain lui demander encore un effort supplémentaire pour produire la même quantité de blé, la même quantité de lait en émettant moins de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui. C'est le challenge des prochaines années de l'agriculture, de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre cela en 2050.
D'accord. D'autant plus que l'agriculture subit les conséquences du réchauffement climatique, mais fait partie aussi des secteurs qui participent à ce réchauffement climatique, puisque au niveau de la région, vous avez calculé que les émissions de gaz à effet de serre, pour l'agriculture, ça représentait 23%. Presque un quart. Hein. Alors c'est différemment réparti en fonction des cultures, puisqu'il y a des cultures qui vont être plus émettrices, d'autres moins. Vous parlez des trois grands gaz à effet de serre qui sont produits par l'agriculture, que ce soit le protoxyde d'azote, le méthane et le dioxyde de carbone. Alors le dioxyde de carbone, c'est quelque chose dont on entend relativement parlé souvent, puisque c'est celui qui est émis par nos voitures et par le secteur du transport, hein, qui est extrêmement pollueur, on va dire, en tout cas émetteur. Pour le protoxyde d'azote et pour le méthane, on connaît moins, le grand public connaît moins ces gaz à effet de serre. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Tout d'abord, peut-être le méthane, puisque celui-là, il est assez facile à comprendre. C'est l'élevage qui le produit massivement, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Le méthane, c'est vraiment les ruminants, donc essentiellement les bovins, mais également les caprins, premier point, ces ruminants ont quand même la capacité à faire du lait et de la viande avec de l'herbe. Hein. Donc, mais lors de la fermentation de ces fourrages, effectivement, on a émission de méthane par éructation principalement. Également, ne jamais oublier aussi que les tas de fumier au champ, à l'intérieur d'un tas de fumier, on a de la matière organique en phase anaérobie. Donc, on crée un petit peu de la méthanisation au milieu des tas de fumier. Mais voilà, dès que l'agriculteur va le reprendre au télescopique, on a émission de méthane à ce moment-là. Donc, en région centre, on est pratiquement à 45% de responsabilité des émissions de gaz à effet de serre agricoles dues au méthane. Donc là, on cible effectivement principalement l'élevage sur ces émissions de gaz à effet de serre de méthane.
Et du coup, quelle proposition on pourrait faire pour réduire, limiter, d'autant plus que j'ai cru comprendre que le méthane avait un pouvoir réchauffant supérieur à celui du CO2.
Tout à fait, environ 30 fois supérieur au CO2. Plusieurs aspects. D'ores et déjà, un éleveur peut appeler la chambre d'agriculture aujourd'hui et demander un diagnostic gaz à effet de serre, c'est-à-dire avoir une idée du tonne de carbone, alors tonne équivalent carbone, c'est-à-dire qu'on va tout rapporter ces fameux méthane en équivalent carbone pour que ce soit comparable. Donc il peut avoir une vision, un état zéro de ses émissions, d'émissions de carbone. Pour réduire ces méthanes, ça va être vraiment plusieurs actions, j'en cite quelques-unes. Tout ce qui va tourner autour de l'alimentation, l'autonomie protéique de la vache, la gestion de l'élevage, avoir des animaux, on va dire, qui sont productifs. Mais je pense à aussi une autre action. Je vous disais que les tas de fumier au champ n'étaient pas négligeables dans les émissions de méthane. On peut imaginer demain se lancer dans de la méthanisation La méthanisation, c'est quoi? C'est au lieu de laisser l'état fumier au champ pendant 6 mois parfois, construire un méthaniseur et emmener en flux tendu ces tas de fumier directement lors du curage dans des méthaniseurs. Le méthaniseur, la particularité, c'est que le tas de fumier va être dans une cocotte minute. Donc on va laisser ces mêmes fermentations se dérouler, à savoir la méthanisation, parce que étant donné qu'on est dans un endroit étanche, le méthane, on va le récupérer. Et ce méthane, c'est exactement la même molécule que vous avez quand vous êtes connecté au gaz de ville. Aujourd'hui, il est essentiellement fossile, il nous provient des Russes ou des Norvégiens. Demain, c'est vraiment l'énergie qui pourrait être verte de demain. De mettre ces fumiers dans des méthaniseurs nous permettrait, un, de plus les émettre dans l'atmosphère, deux, les injecter dans le réseau de gaz et compenser les émissions, les importations de gaz fossiles et en produire localement. Donc ça fait partie des pistes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, enfin, notamment méthane, pour demain.
D'accord. Au niveau du protoxyde d'azote, alors ça c'est une découverte que j'ai faite moi en lisant le rapport. Hein, je m'intéresse à la question, mais je n'imaginais pas le poids de ce gaz à effet de serre. Est-ce que déjà vous pouvez nous le présenter et nous dire d'où il vient?
Oui, c'est vrai que c'est assez atypique. Hein. Quand on regarde tout secteur confondu en région centre ou en France, grosso modo, nos émissions de gaz à effet de serre, c'est du CO2. Hein. Dès qu'on va brûler de l'énergie fossile, que ce soit du pétrole, du fioul, du gaz, on émet du CO2. Et en fait, ces fameux deux gaz à effet de serre, méthane et protoxyde d'azote, en caricaturant un poil, ce sont ces gaz à effet de serre purement agricoles. Le méthane, on l'a expliqué, ça vient de l'élevage. Le protoxyde d'azote, en fait, elle vient vraiment des cultures, et notamment à partir du moment où on met une molécule d'azote sur le sol, il va y avoir des micro-organismes du sol qui vont débobiner l'azote. Grosso modo, c'est le cycle de l'azote que la majorité d'entre vous connaissent. On passe d'un état d'azote organique à un état d'azote minéral. Et la boucle se fait au niveau du cycle de l'azote. Pour faire simple, on va dire, parce que je ne vais pas partir dans le détail, mais c'est nitrification, dénitrification. Bref, pour faire simple, les équations chimiques qui sont réalisées par les micro-organismes du sol, en fonction de l'état pédoclimatique, d'oxygène dans le sol, d'eau dans le sol, de paramètres, ils vont mal travailler. Et ils vont mal équilibrer cette réaction de cycle de l'azote et vont émettre ces fameux protoxydes d'azote. Et tout à l'heure, je vous parlais du méthane qui a un pouvoir réchauffant de 30 fois supérieur au CO2. Le protoxyde d'azote, c'est pas 30, c'est 300. Donc vous imaginez une molécule de protoxyde d'azote émise par les micro-organismes du sol, c'est l'équivalent de 300 molécules de CO2. D'où le fait que en région centre, le protoxyde d'azote, c'est tout simplement la moitié de la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre agricoles. Donc, on a des parades hein, pour limiter ce protoxyde d'azote, mais vous conviendrez que c'est quand même beaucoup plus compliqué pour réduire ces émissions, puisque on parle à des micro-organismes du sol. Donc, forcément, c'est plus complexe. On
Malgré
a
tout,
quand même des pistes. Hein. Oui, allez-y.
ce protoxyde d'azote, il est lié à l'activité humaine. On est bien d'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, d'où vient, quelle action humaine provoque l'émission de ce protoxyde d'azote?
On n'est pas, on n'est pas sur, enfin, on est sur une activité humaine puisque les agriculteurs vont, s'ils veulent avoir du rendement, vont fertiliser les plantes pour avoir du rendement. Alors là, on est plus sur une question d'agriculture biologique ou conventionnelle. À partir du moment où vous mettez de l'azote organique sur les champs ou de l'azote minéral, comme je vous disais, au sein du sol, vous avez le cycle de l'azote qui s'enclenche et les micro-organismes du sol qui vont parfois mal travailler, on va le dire ça comme ça, et émettre du protoxyde d'azote. Donc du coup, c'est une émission quand même qui est d'origine micro-organisme du sol. Les actions que l'on va mettre en place pour limiter ces émissions de protoxyde d'azote, c'est uniquement, enfin, c'est fortement lié à la fertilisation azotée. Donc, c'est fractionner les apports pour apporter l'azote quand la plante en a besoin. Comme ça, on va limiter les excès d'azote dans le sol et éventuellement des micro-organismes qui vont moins émettre de protoxyde d'azote. C'est limiter les doses si besoin. Et puis, c'est tout le travail dont on parlait tout à l'heure sur cette histoire de légumineuse. Puisque, rappelez-vous, la légumineuse a la capacité de capter l'azote de l'air pour la réintroduire sous forme organique. Donc ça, on peut imaginer, en cumulant des cultures de légumineuses à des cultures de graminées, économiser potentiellement l'intrant de fertilisation azotée dans les sols, donc potentiellement des émissions moindres de protoxyde d'azote. Mais la recherche est quand même balbutiante sur ces phénomènes de protoxyde d'azote, et on est encore un petit peu en recherche de biblio et en découverte sur ces émissions de protoxyde d'azote. Assez difficile quand même à maîtriser cette histoire-là.
Malgré tout, on sent qu'il y a un potentiel, en tout cas de recherche et en tout cas d'investissement sur cette question-là, si on veut avoir un impact réel dans la réduction des gaz à effet de serre par l'agriculture.
Oui, mais je rajoute une chose à la complexité, hein, cette fameuse molécule d'azote nous embête fortement en agriculture parce que elle est absolument essentielle pour faire pousser les plantes quand elle est sous sa forme nitrate. Donc, quand elle est en excès, elle a tendance à se lessiver et à aller dans les nappes phréatiques. C'est ce qui a débouché sur la directive nitrate. Quand elle est mal épandue, on va dire, elle se transforme sous forme NH3, ammoniaque, et qui va nous emmener sur des problèmes de qualité de l'air. Le N2O, c'est quand on est dans de mauvaises conditions de sol, elle va émettre du gaz à effet de serre. Donc, vous voyez la complexité du cycle de l'azote au sein d'une parcelle agricole. Il faut se méfier en voulant diminuer un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, en diminuant le protoxyde d'azote, s'assurer de ne pas augmenter un polluant dans un autre sens. Exemple, nitrate, vous allez polluer l'eau dans les nappes phréatiques. Sur un triptyque de molécules qui cherchent tout le temps en fait à s'enfouir de la parcelle, qui est assez complexe et on pourrait imaginer, voilà, c'est assez difficile de prioriser la baisse d'une émission d'une certaine forme d'azote si elle se retrouve sous une autre forme. Donc c'est assez compliqué, ces histoires.
D'accord. J'avais une dernière question, puis après, je pense qu'on aura bien fait le tour hein, sur ces questions qui sont complexes mais passionnantes. Vous avez parlé aussi en termes d'atténuation, donc on a bien compris, la réduction des gaz à effet de serre, c'est un objectif, mais il y a aussi le stockage du carbone dans le sol. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, moi, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'agriculture peut participer à ça, en fait?
Oui, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'en 2050, la France s'était engagée dans la neutralité carbone. Concrètement, ça veut dire qu'en 2050, l'objectif est de diviser par 5 nos émissions. Aujourd'hui, on est à 500 millions de tonnes, pour caricaturer, d'émissions de carbone par an. En 2050, la France s'est engagée à en émettre 5 fois moins, 100 millions de tonnes. Mais 100 millions de tonnes, ce n'est pas encore neutralité carbone. Pour neutralité carbone, il faut être à zéro. On fait appel au stockage carbone. Stockage carbone, c'est quoi? C'est la capacité de prendre des molécules de carbone dans l'air, CO2, et à les mettre sous une forme de stockage. On pense automatiquement à une forêt qui serait en pleine croissance. Les arbres poussent et vont stocker du carbone dans le tronc. C'est ça qu'on appelle stockage carbone. Alors, à condition de pas le brûler, forcément. Mais on peut imaginer faire de la construction bois avec ces arbres-là. Là, on est en plein dans le stockage carbone. On a d'autres pistes au niveau agricole pour amplifier ce stockage carbone. C'est tout ce qui va tourner autour du taux de matière organique des sols. Si demain l'agriculteur modifie ses pratiques et essaye d'augmenter le taux de matière organique de son sol, là, c'est une bonne idée du côté adaptation, hein, puisque tous les agriculteurs connaissent les bienfaits d'un important taux de matière organique des sols. On augmente la réserve utile, on limite le tassement, bref. que des avantages, mais en plus, on stocke en plus du carbone. Donc on a diminué la part de molécules de carbone dans l'atmosphère. L'objectif en 2050, vous avez compris, c'est d'augmenter ce stockage carbone pour contrer ces émissions annuelles de 100 millions de tonnes et arriver à zéro. C'est l'objectif français d'arriver à une émission de 100 millions de tonnes contrée par une augmentation du stockage carbone pour arriver à zéro, même si c'est assez ambitieux. L'agriculture a un pouvoir énorme dans ce stockage carbone. J'oubliais, action très importante pour stocker du carbone, forcément, c'est tout ce qui tourne autour de l'arbre, j'ai parlé de la forêt, mais on peut imaginer remettre de l'arbre au sein de l'exploitation agricole. Je pense aux haies, au bocal, et pourquoi pas à l'agroforesterie, qui serait un bon moyen pour à la fois le côté atténuation et stocker du carbone dans les parcelles agricoles. On peut aussi jouer sur le côté adaptation d'ailleurs sur cette action-là. Bon, reste à mettre en place le côté forcément économique de l'agriculteur. Aujourd'hui, l'agriculteur, voilà, il cherche quand même un moyen économique pour mettre en place ces arbres au sein de la parcelle. Donc on y travaille. Hein. On espère que le marché carbone va s'amplifier et va prendre. Et on pourrait imaginer que l'agriculteur demain se fasse rémunérer sur du stockage carbone qu'il fasse sur son exploitation. C'est encore en projet, mais on sent que ça va devenir opérationnel très prochainement et ça pourrait permettre à activer plus rapidement cette mise en place d'actions stockantes de carbone au niveau des exploitations agricoles.
Eh bien, merci Christophe Beaujouan pour toutes ces informations. Je vous remercie encore une fois pour votre temps. Une dernière chose à ajouter avant qu'on se quitte et qu'on laisse la parole, qu'on laisse la place à une autre émission.
Non, pas. Alors, si, un dernier point. En introduction, je vous ai parlé de Oracle, qui est l'étude du passé, c'est-à-dire les évolutions climatiques depuis 50 ans. La Chambre d'agriculture, à savoir, est munie aussi d'un outil de projection climatique qui permet de simuler les assolements des agriculteurs en 2035, en 2080, pour voir les assolements, quels les chocs au niveau des jours très chauds, des potentiels de sommes de température. Et du coup, on n'est pas uniquement tourné sur le passé, mais on maîtrise également les projections climatiques et on s'appuie sur les modèles de Météo France pour s'appuyer sur ces projections climatiques et tester les assolements de demain des agriculteurs.
Très bien. Merci pour ces informations. Moi, je propose aux auditeurs de retrouver ce rapport qui est en accès libre sur votre site. Je mettrai le lien sur l'article de podcast qui accompagne cette émission afin que les gens qui voudraient aller un peu plus loin dans la lecture et qui sont intéressés par cette question puissent retrouver facilement le document.
Pas de problème.
Je vous remercie encore une fois et je vous dis à une prochaine fois. Si j'ai d'autres questions sur ce sujet-là, je n'hésiterai pas à vous recontacter.
Aucun souci, au contraire.
Voilà. Merci. Au revoir.
Au revoir.
C'est la fin de La Chose Commune. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur le site de la radio studiosf.fr. Dans l'article qui accompagne ce que vous venez d'entendre, vous pouvez retrouver un lien vers l'étude complète dont nous avons parlé avec l'animateur régional d'Oracle. Si vous êtes intéressé par la question, vous pouvez aussi consulter l'ensemble des émissions de La Chose Commune qui ont été mises en ligne depuis novembre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un sujet complètement différent puisqu'on va parler de la Loire et surtout de l'hypothèse de donner à ce fleuve une personnalité juridique. Encore un sujet passionnant qu'on va aborder la semaine prochaine dans La Chose Commune. À bientôt.